Monsieur le secrétaire général adjoint, bonjour.
Bonjour.
Tout au long de votre visite en RDC, la question sécuritaire vous a été posée. En Ituri et au Nord Kivu, vous êtes passé. Vous avez aussi évoqué cette question avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Comment vous évaluez la situation sécuritaire dans le Nord Kivu et l'Ituri, deux provinces sous état de siège?
Eh bien, la situation sécuritaire dans ces provinces de l'Est, elle est encore très préoccupante, je crois qu'il faut le dire. Et ce qui se passe aussi, c'est que, comme vous le savez, il y a plusieurs situations dans ces provinces qui sont traditionnellement des foyers de tension, qu'il s'agisse de l'Ituri, de la zone des ADF, où les ADF opèrent, qui s'appelle le Grand Nord, le Petit Nord, le Sud Kivu. Mais en ce moment, il y a une sorte de concomitance, c'est-à-dire qu'il y a des poussées de tension à peu près dans toutes ces zones en même temps. Et bien sûr, les conséquences pour les populations sont graves. Nous étions l'autre jour en Ituri, nous avons visité un site de personnes déplacées à Roé, et il y a plus de personnes déplacées dans ce site que lorsque j'y étais déjà allé il y a un peu plus d'un an. Alors, face à cela, que faisons-nous? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la coopération avec les autorités congolaises, et en particulier les forces armées congolaises, est vraiment excellente. Elle s'est renforcée. J'ai visité à Goma le centre de coordination qui existe maintenant entre les forces de la République démocratique du Congo et la MONUSCO. C'est un endroit où physiquement, officiers MONUSCO et officiers congolais travaillent ensemble pour la planification, le renseignement, conduite des opérations. Et parallèlement à cela, la MONUSCO a beaucoup adapté ses méthodes, ses outils. Là où je suis allé à Roé, par exemple, elle a renforcé sa présence. Les humanitaires font un travail formidable pour aider les personnes déplacées. Les forces armées congolaises renforcent également leur présence et leur mode d'action. D'ailleurs, le ministre de la Défense nous accompagnait dans cette visite à l'Est. Mais il y a encore beaucoup à faire sur le plan, bien sûr, de la réponse sécuritaire, mais aussi pour traiter, y compris dans un cadre régional, un certain nombre de sujets qui sont vraiment à la racine de cette violence.
Il y a encore beaucoup à faire. Et comment les Nations Unies entendent-elles justement aider la RDC dans ce sens-là pour pacifier le pays?
Alors, donc d'abord, il y a ce travail d'appui, de soutien, de coordination avec les FARDC, qui elles-mêmes se renforcent, mais il y a encore du travail à faire. Et il y a la propre adaptation de notre outil, à la fois sécuritaire, avec davantage d'unités qui sont mobiles, qui peuvent réagir rapidement. Un travail aussi sur l'information, l'intelligence, comme on dit en anglais, intelligence, parce qu'il faut être plus capable d'anticiper les menaces à la population. Et par exemple, ce centre de coordination entre la MONUSCO et les FARDC a un certain nombre d'installations, y compris avec l'aide de technologies digitales, qui permettent de savoir ce qui se passe dans certaines zones où les groupes armés sont actifs. On le voit très directement, ça permet d'avoir plus d'efficacité. Il faut faire davantage. Et parallèlement à cela, je pense qu'il est important que les partenariats bilatéraux avec notamment les FARDC se développent. Et au-delà de ça, bien sûr, les projets importants comme le DDR, programme de désarmement, démobilisation, réintégration communautaire, stabilisation, c'est très important. Nous souhaitons vraiment que ces programmes puissent commencer concrètement. Et puis enfin, il y a les sujets, je dirais, un peu plus systémiques. On a beaucoup parlé hier au sommet de mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba de la question d'exploitation illégale des ressources naturelles, la question du phénomène du terrorisme. Ce sont des phénomènes qui sont régionaux, ils doivent être traités à l'échelle régionale. Et toute cette coopération régionale est fondamentale.
Votre visite en RDC avait entre autres pour objectif de participer au 10e sommet pour évaluer l'accord cadre d'Addis Abeba. Certains observateurs estiment qu'il y a des avancées significatives par rapport à la mise en œuvre de cet accord. D'autres, par contre, pensent que le chemin est encore long. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Lacroix?
Je dirais que les deux ont un peu raison. C'est-à-dire qu'il y a des progrès, c'est clair, et on voit bien qu'il y a une forte dynamique du renforcement de la coopération régionale. D'ailleurs, le président Tshisekedi s'est beaucoup impliqué dans cette dynamique. D'autres pays de la région ont également amélioré leurs relations. Ça, c'est très positif. Il y a encore du chemin à faire, naturellement, parce que plus cette coopération se traduira par un renforcement de la confiance et aussi par des travaux conjoints, comme par exemple ce qui se passe en ce moment avec, entre les FARDC et les forces ougandaises. Nous avons une bonne coordination avec ces opérations en ce moment. Plus ça se traduit par des actions concrètes sur le terrain, et pas seulement sur le plan sécuritaire, mais encore une fois aussi sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la question des ressources naturelles, la question de la lutte contre le terrorisme, etc. Plus les chances pour faire progresser la paix dans la région seront importantes. Donc nous sommes à la fois avec des progrès et en même temps du chemin à faire, mais la dimension régionale, cet effort de renforcer la confiance, le travail mutuel, la coopération entre les pays de la région, absolument fondamental.
Vous avez rencontré l'opposition politique lors de vos différentes rencontre avec la classe politique congolaise. L'opposition demande à l'ONU de tout faire pour soutenir l'intégrité du processus électoral. Quelle peut être la contribution des Nations Unies pour que la RDC organise des élections crédibles, inclusives, mais surtout dans le délai constitutionnel?
Alors, nous avons fait l'objet d'un certain nombre de demandes des autorités, en particulier de la CENI pour ce qui concerne l'appui que pourraient apporter les Nations Unies au processus électoral. Et nous sommes prêts à les examiner. Il y a d'ailleurs une équipe des Nations Unies qui se rendra dans environ un mois en République démocratique du Congo pour approfondir cette question. L'objectif que nous souhaitons poursuivre, évidemment, c'est de soutenir un processus électoral pour qu'il soit précisément équitable, inclusif, qui donne lieu à un débat démocratique et à la plus forte participation possible, y compris des femmes, bien entendu, en tant qu'électrices, en tant qu'acteurs et actrices politiques. Tout ça, c'est ce que nous souhaitons, pour, évidemment dans les délais constitutionnels, pour que ce processus puisse permettre véritablement à la population congolaise d'exprimer son souhait. Donc c'est dans cet esprit que nous sommes prêts à aider ce processus, dans la mesure, bien sûr, des demandes qui nous seront faites.
Alors, vous avez abordé cette question avec les autorités congolaises, la question des élections, des prochaines élections.
Oui, bien sûr, tout à fait.
Est-ce que vous avez perçu dans vos échanges une certaine détermination de la part des autorités de pouvoir organiser ces élections dans les délais constitutionnels?
Nous avons parlé des élections et nous avons dit que nous étions prêts, évidemment, à apporter le soutien qui nous serait demandé, en tout cas que nous sommes prêts à examiner ces demandes de soutien. Et aussi, bien sûr, nous avons échangé sur ces objectifs importants. Je crois qu'il y a, d'une manière générale, le sentiment dans ce pays et chez tous les interlocuteurs que nous avons rencontrés qu'il faut que ces élections se passent bien, qu'elles soient pacifiques également, mais aussi pleinement démocratique, pleinement inclusive. Et donc c'est dans ce sens que nous allons travailler et que nous allons rester en contact avec tous les interlocuteurs, bien sûr les autorités, mais aussi les forces vives, la société civile qui a un rôle très important à jouer, les partis politiques de l'Union sacrée, la majorité présidentielle, aussi de l'opposition. Tout le monde doit être entendu. Tout le monde doit participer, c'est ça le sens évidemment de la démocratie et des élections libres.
Monsieur Lacroix, dernière question avant de nous séparer. Radio Capi, la radio des Nations Unies en RDC, fête ses 20 ans ce 25 février 2022. Une radio suivie sur toute l'étendue de la RDC avec plus de 24 millions d'auditeurs par semaine et plus d'un million d'abonnés sur sa page Facebook. Quel souhait pour cette radio? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette radio?
J'ai envie d'abord de dire 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. Hein. Alors, je dis d'abord aux auditeurs et aussi toute l'équipe de Radio Capi, félicitations, bravo, bon anniversaire. 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. C'est un âge plein de promesses, plein de rêves. Donc, je souhaite à Radio Capi une longue vie. Je félicite d'abord les auditeurs parce que c'est grâce aux auditeurs que Radio Capi se construit tous les jours. Et je dis aussi un grand bravo à toutes les équipes pour ce succès impressionnant qui est Radio Okapi. Donc je lui souhaite plein succès, longue vie et encore une fois bravo.
Vous souhaitez voir Radio Okapi continuer même après le départ de la MONUSCO ?
C'est ce que tout le monde souhaite, je crois. Et je crois qu'il y a du travail qui est fait en ce sens et des progrès qui sont réalisés pour que, effectivement, Radio Okapi puisse continuer à travailler, quelles que soient par ailleurs les évolutions en ce qui concerne la présence des Nations Unies.
Merci beaucoup, Monsieur Lacroix.
Merci.